Donc c'est l'heure, c'est la deuxième heure qui commence avec un spécial Domra i Balalaïka. Dobry dien.
Dobry dien. Vous parlez russe
hein? Un tout petit peu, mais bon, on va s'arrêter là.
Bon.
Natacha à ma droite, Natalia à ma gauche. Alors, on va commencer par faire quelques présentations. Natacha, tu es venue chez nous il y a 3 ans déjà pour présenter ce disque-là, je crois.
Oui,
ou un autre.
C'était celui-là.
Gamayoun.
Gamayoun, oui.
Natacha et Nuit de Prince, dont on reparlera peut-être tout à l'heure. Natalia, c'est la première fois que tu viens.
Avec plaisir.
Alors, Natacha joue de la balalaïka. Tu chantes un peu ?
Oui, voilà, oui, bien sûr.
Beaucoup même.
Oui.
Voilà. Natalia joue de la domra, ce qu'on appelle la domra. Voilà.
Oui.
Et c'est un instrument, donc deux instruments qu'on va essayer de, comment dirais-je, de rendre un peu plus familier aux oreilles de nos auditeurs, puisque bon, c'est pas toujours facile pour des gens comme nous de reconnaître des sons. D'ailleurs, on verra que domra, balalaïka, parfois, ça se ressemble un petit peu, mais elles ont une histoire, il y a tout un environnement culturel très très riche et très important, et très ancien aussi, qu'on va essayer de vous détailler. Alors, avant d'entamer une petite rétrospective de vos carrières respectives, on va se remettre dans l'oreille ce que c'est que la balalaïka avec un grand maître contemporain de cet instrument qui s'appelle Nicolas Kedrov, qui nous interprète un morceau. Alors, je vais essayer de le dire en russe, je vais essayer de ne pas massacrer tout ça, si je retrouve. Voilà, Svietit Miesiac.
Oui, la lune brille.
La lune brille. Bon, c'est pas vraiment
c'est
le moment, mais
classique.
C'est un super morceau.
C'était vendredi, vendredi dernier, la lune brillait.
Voilà, exactement. Nicolas Kedrov. En russe.
Bravo,
Nicolas. Sauf que là, c'était pas chanté, mais bref. Alors, Natacha, si tu veux bien, on reviendra sur Nicolas Kedrov dans un instant, c'est ce qu'on vient d'entendre. Est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu ta carrière, d'où tu viens, comment tu as commencé la musique, en quelques mots?
Alors, ma carrière, c'est un bien grand mot, mais bon, je suis issue de ce qu'on appelle les Russes blancs, tout comme Nicolas Kedrov d'ailleurs.
Oui.
Donc, nous avons gardé la culture russe, c'était notre identité, donc c'était très très fort. Moi, quand j'étais petite, bien que ma mère soit française, je me considérais comme russe, mm-hmm. On me considérait comme russe, mm-hmm. On a perpétué la langue, il y avait des écoles russes, des colonies russes dans lesquelles on se rendait, et c'est là que j'ai rencontré la balalaïka. Voilà. Donc c'était au début, c'était tout à fait, enfin des petits cercles, des petits orchestres tout à fait amateurs. Mm-hmm. Et puis ensuite j'ai étudié également avec un conservatoire Rachmaninov avec un monsieur qui s'appelle Misha Makarenko. Et puis ensuite je suis partie en Russie pour y faire des études de russe. On se demande pourquoi. J'aurais mieux fait faire des études de balalaïka. Et j'ai joué là-bas dans un orchestre populaire qui était l'orchestre des cheminots. Ah, dans lequel nous avons joué ensemble, d'ailleurs avec Nicolas Kedrov. Kedrov était à la prima, donc l'instrument. Moi, j'étais à la seconde.
D'accord.
Voilà, donc c'était un peu différent.
On rentrera dans ces détails de famille de balalaïka.
Voilà. Et puis ensuite, j'ai fait l'école. On appelle ça, nous, on rigole, on se dit qu'on a fait la faculté de tzigane. C'est-à-dire qu'en fait, on a fait nos armes, on a appris l'instrument et le métier sur les planches. Oui. Et j'ai commencé par jouer au Rasputin, où il y avait un petit orchestre. Et puis ensuite, j'ai enchaîné avec Marc Dolouchek, qui avait aussi un cabaret fort célèbre, qui s'appelait Balalaïka et tout ça. Voilà, donc il y avait un certain nombre de cabarets qui existaient encore. Et puis ensuite, voilà, j'ai monté mon propre groupe. Et dans lequel a joué d'ailleurs Nicolas Kedrov pendant des années. Mmh. Et puis Natalia Troichina est venue.
Alors, donc ça, c'était pour Natacha Fialkovski, parce que je n'ai pas donné votre nom de famille. Et Natalia, ton nom ?
Troichina.
Ok, alors à toi, comment tu pourrais retracer brièvement ton parcours musical ?
En Russie, les enfants, c'était presque obligatoire de passer par le conservatoire de la musique. Ça fait partie de l'éducation des enfants.
Rapproche-toi un peu du micro, s'il te plaît. Merci.
Ma mère, elle m'a amenée au conservatoire pour que je puisse faire du piano. Sauf qu'il n'y avait plus de place parce qu'on est arrivé le dernier jour d'inscription. Et on a proposé de cet instrument que je ne connaissais pas. Pas du tout. Oui. Donc là, à 7 ans, c'était pas ce qui nous intéressait à l'époque. Et on m'a dit, tu fais ça, tu fais la domra, et tu fais connaissance avec ce que c'est de la musique. Oui. Et après, tu peux changer d'orientation pour faire du piano. Mm-hmm. Ok, sauf que ça, c'est un rare instrument. Je peux dire ça par son histoire, on va aborder le sujet tout à après, mais par sa spécificité d'exercer l'instrument. Oui. Ça fait mal, très mal au point de doigt. Oui. Il faut passer pour que ça puisse redurcir. Il faut quand même jouer pendant pratiquement un mois. Mm-hmm. Et chaque fois quand vous touchez l'instrument, ça fait très mal. Hein.
Oui.
Ça fait des ampoules.
Ça fait parce que les cordes sont en acier.
C'est ça, voilà.
Mmh. Et ils sont très très durs par rapport à la balalaïka et les cordes en nylon.
En nylon, d'accord.
Oui, mais il y a quand même une corde en acier aussi.
La tension de corde, elle n'est pas pareille comme sur la domra. Hein. Mmh. Une fois vous passez par cette étape-là, vous êtes amoureux de cet instrument et vous l'abandonnez jamais.
Jamais, d'accord. Oui,
parce que ça coûtait très cher. Ici, il y a beaucoup d'enfants qui ne veulent pas persister et qui abandonnent complètement. Oui. Mais ceux qui sont passés par ce période de formation des cordes sur les doigts, après, c'est à vie.
Alors, tu es né en Russie.
Oui.
Et tu vis en France depuis
Depuis 2020. 2000.
Depuis 20 ans. Donc une vingtaine d'années.
Oui. J'ai suivi mon mari qui est aussi excellent musicien. D'accord. Et qui est aussi toujours là.
Donc tu es musicienne de profession ou pas ?
Oui. 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 Je suis musicienne de profession, de formation, si vous voulez. Moi, je suis diplômée par l'académie, je dirais meilleure académie de la Russie, de Gnessine. Où il y avait, vous pouvez juste avoir le diplôme avec mention, le diplôme pour les instruments russes populaires.
Oui.
D'accord. En formation, et surtout pour l'orchestre des instruments folkloriques russes populaires.
Alors,
il n'y avait pas d'autres, il y avait pour les instruments classiques, les conservatoires, mais pour les instruments russes, ça c'est le premier établissement qui a pris en sérieux les instruments russes populaires.
Voilà, oui, on en reparlera tout à l'heure, parce qu'encore une fois, cet aspect populaire classique, c'est quelque chose d'assez particulier quand même à la musique russe, je trouve, moi, de avec mon, mes faibles connaissances, on va dire.
Pour moi, c'était surtout politique. C'était aussi politique. C'est-à-dire que, comme le peuple était souverain, d'une façon, en Union soviétique, il fallait, la musique populaire l'était aussi. Oui. Donc, il fallait ériger les instruments populaires et la musique populaire au même rang, au même niveau que la dite grande musique.
D'accord. Alors, on va revenir brièvement sur Nicolas Kedroff et dire ce qu'on a entendu. Donc, c'est un thème traditionnel. Je précise que le disque s'appelle Sounds of Russia. C'est en anglais. Bon, c'est paru en 2012 sur le label français Dom. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Je crois, Natalia, tu voulais dire quelque chose sur Svetit Nisiats.
Oui, ça, c'est sûr. Le morceau qui est connu mondialement après sortie du film Grand Budapest Hotel. Réalisateur Andersen qui a utilisé ce morceau, justement, l'histoire de ce film, il n'a rien à voir avec la musique russe. Mm-hmm. Par contre, il cherchait le son original qui n'était pas utilisé à Hollywood.
Oui.
Et il a trouvé Balalaika.
D'accord.
Voilà. Et ce morceau, ce film qui est un peu, pour moi, pas très commercial et. Bon, il se termine par ce morceau.
D'accord.
Et lui, après quelques jours d'enregistrement dans le studio, à Meudon, il a dit « Maintenant, le monde entier va connaître votre instrument. »
Oui, parce que nous avons participé à la BO de ce film avec l'Orchestre Saint-Georges. Parce que nous faisons partie également d'un orchestre de Balalaïka. Enfin, on pourra en reparler tout à l'heure.
Oui. Voilà. Très bien. Alors, on va donc essayer de défricher un petit peu cet aspect des origines, en quelque sorte, puisque pour moi, c'est toujours quelque chose d'important de savoir, aussi bien pour les gens que pour les instruments de musique qu'on joue, de savoir d'où vient un petit peu cet instrument. Alors, qui veut s'en charger? On va commencer par la domra, peut-être. Natalia.
Oui, domra, il est apparu avant Balalaïka.
Oui.
Hein, c'était plutôt 15e, 16e siècle.
Oui.
Les premières images, il était apparu au 15e siècle. À Kiev, on peut toujours trouver l'image d'un saphiste qui s'aborde la cathédrale de
Sainte-Sophie
à Kiev.
Oui.
Pour les origines, moi, je dirais qu'il y a quand même un mélange en vue de la situation géographique de la Russie entre l'Asie centrale et l'Europe, quand même.
Oui.
La forme de l'instrument, c'est plutôt l'Asie centrale, mongolo-tatar. On trouve dans plusieurs nations d'Asie centrale, comme des Ouzbeks, Tadjiks, Kirghiz, Kazakhs, Kalmyks, les instruments qui ressemblent beaucoup par le nom et par la forme physique de l'instrument. Par contre, ces instruments-là, ils étaient toujours joués la main droite avec les doigts.
On bat les cordes.
Oui. Voilà.
Avec tous les doigts.
Ce qui est plutôt une technique de balalaïka.
De balalaïka.
Voilà. Qu'on va réévoquer tout de suite.
Et là, c'est ce que je rejoins cette version de quand même de l'Europe. C'est plutôt le luth qui a donné.
Donc le luth renaissance, c'est ça un petit peu,
qui
ou le
est
baroque.
Venu quand même au 16e, c'est l'apparition en Russie, l'instrument du luth, qui on a joué avec le plectre.
Oui. D'accord.
Et ça fait le mélange. Donc, domra, ça a gagné tout de suite le territoire de la Russie. Il était tellement populaire, ça se jouait partout, que le tsar, en 1648, Alexei Mikhailovitch, qui avait 19 ans, il a fait la loi qui est interdit de domra. Donc, et on a oublié cet instrument pendant 200 ans.
Ouais.
Voilà.
Donc tout ce qu'on connaît actuellement, le répertoire, tout ça, c'est une résurrection en quelque sorte de cet instrument qui a disparu vraiment.
Oui, il n'y a pas un autre instrument qui a vécu l'histoire pareille, d'oubli pendant 200 ans.
D'accord. Alors, est-ce que le modèle actuel, organologiquement parlant, est le même que celui du XVIIe siècle?
Oui.
Si tu peux nous dire le nombre de cordes, comment il est construit, la forme?
C'était toujours trois cordes.
Oui.
C'est toujours cette latte de bois arrondie.
Oui. La caisse, le fond de la caisse est bombé un petit peu.
Oui.
C'est pas plat comme
les instruments d'Asie centrale.
D'accord.
Ou même les mandolines.
Les mandolines américaines.
Non, il y a deux versions de mandoline. Ah, avec la napolitaine, elle est avec le corps.
Oui, mais la mandoline américaine, elle est beaucoup plate. Moins bombée. Mmh. Ouais. D'accord. Mmh. Et donc, ce sont trois cordes simples.
Oui.
Elles ne sont pas doubles. En acier.
Tout à fait.
Et on joue toujours avec ce qu'on appelle un plectre.
Non, on peut jouer avec le
doigt. Le doigt,
ce qui s'appelle pizzicato.
C'est ça.
Voilà. D'accord. Pour dire que ça existe aussi, la domra a quatre cordes, hein, qui est plutôt la version d'Ukraine.
Ah oui.
C'est beaucoup plus joué en Ukraine. Ça permet de toucher le répertoire plutôt classique et il n'est pas accordé comme domra à trois cordes.
D'accord, ouais.
C'est plutôt l'accordage de la mandoline.
Ok. Y a-t-il une famille de domra comme pour la balalaïka?
Bien sûr.
Il y a soprano, alto.
On commence par la plus grande, c'est domra basse.
Oui.
Après, il y a domra alto, il y a domra prima, un peu moins que dans la famille de balalaïka, il y a domra piccolo aussi.
Piccolo. Hein. D'accord. Donc la toute petite. Prima.
Oui, toute petite. Okay. Mais la famille de balalaïka, elle est un petit peu plus élargie.
D'accord. Alors cette balalaïka, justement, Natacha, pourquoi est-ce qu'elle est apparue après la domra, s'il y a une origine un peu commune au départ, etc., etc. Éclaire-nous.
Je ne sais pas, moi j'ai envie de dire que la balalaïka, c'est justement, elle est un peu rebelle, elle est un peu libertaire, parce qu'en fait, elle est née de l'interdiction de la domra.
Ah, c'est ça.
Comme le tsar Alexis Mikhailovitch a interdit par décret, en 1648, il a inscrit par décret l'usage de la domra, le jeu de la domra, parce que la domra, on l'utilisait comme pamphlet, il y avait des petites chansons contre le pouvoir, contre... Donc, ça a été interdit et n'était autorisé que la musique sacrée.
Je voulais dire aussi que les gens tellement adoraient et ils préféraient d'aller au marché écouter les musiciens qu'aller à l'église dimanche.
Je comprends, oui, oui, oui.
et donc, comme la domra est interdite, de toute façon, l'homme trouve toujours des moyens de contourner les lois.
Oui.
Et il a inventé cette balalaïka qui n'était plus tout à fait arrondie,
oui,
qui était triangulaire. Ils ont gardé les trois cordes.
Oui.
Et voilà, et la balalaïka est née.
Alors, j'ai lu que autant le nom de domra vient quasiment directement des langues turco-mongoles de Sibérie ou d'Asie centrale. Balalaïka, c'est un terme russe.
Par contre, c'est balak, c'est bavarder, converser,
raconter.
C'est ça. Voilà. Donc c'est un instrument qui était à l'origine exclusivement populaire.
Oui.
Qui n'a jamais été utilisé, donc par ce qu'on appellerait les classes, l'élite.
Jusque fin 19e.
C'est ça.
Voilà.
Où là, il y a eu un basculement.
Il y a eu un basculement, et tout d'un coup, il y a Andreev qui s'est intéressé à l'instrument. Alors d'abord, paraît-il, j'ai appris ça justement en cherchant un petit peu, là, qu'il y avait un premier luthier qui s'appelait Pasirbski, qui a sorti en 1870 un premier instrument digne, un peu de ce, enfin pas digne de ce nom, parce que les instruments existaient avant,
oui, mais quelque chose. De concert.
Voilà,
quoi.
Un instrument de lutherie.
Oui.
Mais c'est surtout Andreev qui s'est intéressé à la question et qui a amené, qui était lui-même violoniste, et qui est allé voir un monsieur qui s'appelait Semyon Nalimov et qui a décidé de s'inspirer du quatuor du violon et de décliner l'instrument dans plusieurs formats. Oui, voilà. Tessiture et format.
Voilà. Okay.
Je voulais juste ajouter que Vassili Andreev, elle a voyagé quand même dans le monde entier.
Ah oui.
Et il s'est rendu compte qu'en Italie, il y a de la mandoline.
Oui.
Dans les autres pays, il y a toujours un instrument qui présente vraiment ethnique, folklorique. Et il s'est dit, mais en Russie, on n'en a pas.
Oui.
Et en rentrant, il a commencé à contacter Nalimov, justement, pour créer cet instrument qui présente une identité russe.
Absolument. Alors, Andreev, c'est la fin du 19e, c'est ça?
C'est ça.
Pour situer un petit peu les choses. Alors, petite pause musicale, on va écouter deux exemples de musique d'Asie centrale au sens très large, avec d'abord ce que les Kirghizes appellent le komouz, instrument à trois cordes, avec une technique où on bat les cordes à la main droite, et à la main gauche on se sert des doigts pour faire les différentes notes, et ça va quand même rappeler furieusement ce qu'on vient d'entendre, enfin assez proche en tout cas, ce qu'on vient d'entendre avec Nicolas Kedrov, donc pour illustrer cette origine supposée, parce que rien n'est sûr finalement.
Rien n'est sûr, mais enfin, ça paraît quand même probable.
Oui.
En tout cas, pour ce qui est de la dombra, c'est sûr que la forme ressemble énormément. Et pour la technique, la balalaika.
C'est ça. Mmh. Alors, on écoute donc extrait d'un disque qui s'appelle Turkestan, Komuz Kirghiz, Dombra Kazakh. Un musicien qui s'appelle Abdelrahman Nourak, qui joue du Komuz, donc ce luth à trois cordes. Extrait d'un disque paru chez Okora Radio France. J'ai pas la date, mais en tout cas, l'enregistrement date de 1997 et il a été fait par Jean During. Rien que ça. Thank you. Radio Libertaire 89.4, nous sommes actuellement dans l'émission Folkalier avec deux invités, Natacha et Natalia, qui nous parlent de deux instruments russes emblématiques, la domra et la balalaïka. On vient d'écouter donc à la suite un peu de komouz kirghize, voilà, qui évoque effectivement assez nettement quand même les origines très très possible de la balalaïka. Et ensuite, on a écouté un solo de ce qu'on appelle, ce que les ouzbeks appellent le dotar, par une musicienne qui s'appelle Gozal Muminova. C'est également été enregistré par Jean During. C'était donc le dotar Bayot qu'on vient d'entendre, et c'est sur un label iranien très très intéressant, paru en 2007. Le label s'appelle Mahur Institute of Culture and Art. Dotar de Transoxiane, Gozal Muminova. Alors, j'ai choisi ce deuxième exemple aussi parce que, alors évidemment, quand on n'est pas musicien, c'est pas forcément ce qu'on repère, mais parce que cette musicienne a utilisé le pouce à la main gauche pour modifier la corde de bourdon. Et c'est une technique qu'on retrouve également en balalaïka, c'est ça ?
Oui, oui, on retrouve ça en balalaïka, et c'est d'ailleurs très astucieux. Hein, parce que
oui,
c'est pour ça qu'il y a deux cordes qui sont à l'unisson, il faut le rappeler.
Ah oui, pour la voilà, balalaïka. Rappelle-nous la corde.
Voilà. Donc il y a deux cordes, donc on pouvait varier, bouger le pouce pour varier l'accord, et la corde acier qui était plutôt mélodique.
Et donc on change de pas de mode, mais enfin on change de clé en quelque sorte. On peut passer, si on est en do par exemple, on peut jouer avec le pouce en changeant le bourdon, on peut se retrouver en la par exemple, enfin ce genre de...
Ah ben on peut faire tous les accords.
C'est
peut,
ça.
On peut tout jouer.
Donc en fait, avec ces deux cordes accordées en la,
mi la,
on arrive à jouer tout.
On arrive à jouer tout.
C'est ça qui est incroyable avec quand même un instrument qui à première vue a l'air assez
primitif.
Assez limité. Il y a quand même trois cordes. Donc de toute façon, c'est pas parce qu'il y a deux cordes à l'unisson qu'on peut pas jouer trois sons différents. Enfin, je veux dire,
oui,
après il y a des positions qui font que de toute façon on joue trois.
Absolument. Et donc la première corde la plus aiguë est en acier.
Oui.
Et les deux cordes de mi sont en nylon.
C'est ça.
D'accord.
C'est ça. Alors par contre, je ne sais pas, j'ai cherché un peu pour savoir si, parce qu'avant il n'y avait pas de nylon et d'acier,
oui,
hein.
Oui.
Le nylon est apparu dans 1940.
D'accord.
Donc avant, ça devait être des cordes en boyau. Alors je ne sais pas s'il y avait deux cordes en boyau, une corde en acier, enfin ça je ne sais pas, j'ai pas pu trouver.
D'accord. Alors, cette balalaïka et cette domra étaient donc à l'origine des instruments strictement populaires, comme on l'a dit tout à l'heure, qui vont connaître un certain renouveau, en quelque sorte, grâce à des musiciens emblématiques comme Andreev pour la balalaïka. Est-ce qu'il y a eu la même chose ? Quel serait le musicien à citer côté domra ?
Bah, c'est à peu près la même chose, Andreev aussi, parce qu'en fait, il a créé un orchestre d'instruments populaires. Il n'y avait pas
D'accord.
que la balalaïka.
Oui, ok. D'accord, on y reviendra peut-être tout à l'heure sur d'autres instruments populaires. Là, je voudrais vous passer donc un exemple de ce qui était à l'origine l'utilisation de la balalaïka, c'est-à-dire un instrument qui était peut-être accroché au mur, c'est ça, ou qui était disponible en tout cas, et que n'importe qui pouvait jouer selon l'humeur du moment, ou quand il y avait des invités, ou quand on avait un petit peu,
un peu de vodka, vous voulez dire, c'est ça ?
Je sais pas, bon, en tout cas, on peut, ou je sais pas, si on avait un coup de cafard, on pouvait aussi, le paysan russe pouvait donc décliner un petit peu ses...
Bien sûr, celui qui avait les capacités de le faire. Enfin, j'imagine que tout le monde n'était pas musicien, mais en tout cas, c'était un instrument à la portée de tout musicien naturel, je dirais, parce que les Russes ont quand même la fâcheuse, enfin la très bonne habitude, on va dire, pas la fâcheuse, de terminer les repas en chanson.
Oui.
Voilà, comme Astérix.
Oui.
Et la balalaïka faisait partie de ces fins de repas.
D'accord.
Voilà.
Alors là, je vais vous proposer un très court extrait d'un disque qui a été enregistré entre 1975 et 1980 sur le label soviétique de l'époque Melodia, avec des Tchatouski.
Tchatouski.
Et Pripievki. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ?
Pripievki, c'est les refrains.
C'est le son, oui, tout à fait.
Est-ce que c'est improvisé ? Est-ce que c'était improvisé ?
À l'époque, c'était improvisé, c'est-à-dire qu'on racontait les histoires de village.
C'est ça.
Ce qui se passait, machin, à coucher avec truc, tout ce qui se passait.
D'accord. Alors là, il s'agit des frères Alexandre et Gennady Zavolokin, qui vont nous interpréter donc quelques tchastouchki qu'ils ont récupérés de leur maman, d'après ce que j'ai compris. L'un, je ne sais pas lequel, joue de la balalaïka et l'autre joue de l'accordéon. C'est parti.
Девки торид пошитё. Да если лапти порветё, да завтра нос влететё. На горе крути, верте, да под горой крути, верте. Да изболелась грудь, верте, крути, мотали по тебе. Все с мота мечтай гуляют, у мота не все друзья. Сентя, вантя, гринтя, минтя, нынче очередь моя. А меня девушки не любят, в этом я уж сознаюсь. А потому они не любят, что их здорово боюсь. А за коврянскую дороженьку тарю, тарю, тарю. А за коврянскую девчоночку к себе переманю. А сам пришел, сам припеваю, сам играю в гармозей. А на мне новая рубаха.
Alors donc, excusez-nous pour ce petit blanc sonore. On a donc écouté donc ces frères Zavolokin avec ces couplets improvisés en fait, voilà sur la vie de la communauté. Alors donc, est-ce qu'on peut évoquer maintenant, à partir de la fin du 19e, pourquoi vous nous l'avez expliqué un petit peu, mais comment ça s'est fait donc cette appropriation du répertoire classique? Puisque moi je sais que souvent ce qu'on trouve en Dombra, je pense que Natalia, tu seras d'accord, on va trouver des reprises de Glinka, des reprises de Chopin, des reprises de Tchaïkovski.
Le premier, c'était Glazunov qui a créé la fantaisie russe, ça s'appelait, pour justement pour l'orchestre, grand l'orchestre d'Andreev. C'est cette œuvre qui était vraiment écrite spécialement et qui était écrite par Glazunov, qui était maître quand même de compositeur russe.
Oui.
Mais inversement, les ponts ont été dans les deux sens, c'est-à-dire que la musique classique a aussi emprunté des thèmes populaires, Tchaïkovski, Borodine, Natalia, tu connais...
Mais moi,
Glinka,
ce que je comprends, c'est que donc cet aspect conservatoire des choses, est-ce que ça a formaté un petit peu cette musique d'origine populaire ou cet instrument d'origine populaire ou pas? Comment c'est ça, j'arrive pas à voir. Est-ce que par exemple tous les joueurs de balalaïka savent lire la musique? Oui. Ils sont obligés d'apprendre la musique en Russie, oui.
Oui, oui, mais ce que je voulais dire, que si vous prenez n'importe quel instrument populaire, pas forcément russe, il va rester dans la caisse de notre instrument folklorique.
Oui.
Si les compositeurs classiques ne crivent pas le répertoire qui remonte.
D'accord.
L'instrument au niveau de classique.
Et moi, ce que j'ai remarqué, c'est que ce qu'on trouve le plus souvent, alors il y a effectivement des exceptions, mais pas, peut-être parce que ça n'est pas enregistré en Russie, actuellement, on a l'impression que c'est toujours une production de masse, enfin d'orchestre très important. Il n'y a plus de musique de balalaïka soliste en Russie actuellement, ou de domra, je ne sais pas.
Si, bien sûr.
Oui.
Bien sûr, mais ça se joue toujours avec un orchestre derrière.
Oui.
Domra, c'est un instrument soliste.
Oui.
Très mélodique. Bon, c'est en fait ces violons russes, on peut comparer.
D'accord, ok. Oui, pourquoi pas, oui. Alors, moi, je voulais passer un exemple de Domra tel qu'elle a existé pendant la période soviétique, notamment, et je n'arrive pas à retrouver ce morceau-là, donc je ne sais pas comment on va faire. Est-ce qu'on pourrait trouver autre chose?
Vous pouvez passer le morceau de Domra que joue Natalia.
Alors, d'accord.
C'est pas soviétique.
C'est pas soviétique.
Non, ça, c'est pas grave, mais c'est
pour avoir le son.
On va écouter un extrait de ce disque Gamayoun. Donc, Natacha et Nuit de Prince, la plage 10. La 10, voilà. Et c'est un exemple. Donc, Natalia joue la Domra.
Voilà.
Tu joues de la balalaïka sur cette plage.
Oui.
C'est chanté ou pas?
Chanté.
Ok.
Ça termine par des chants.
Je voulais juste préciser que ce morceau, il était quand même composé pour un grand joueur et compositeur de l'époque soviétique,
oui.
Alexandre Tsigankov.
Oui.
qui, pour moi, c'est mon maître.
Alors, tout à l'heure, hors micro, tu évoquais un petit peu les différentes phases dans la chronologie de l'instrument, entre période soviétique, tout ça, en me disant bon, que ce n'était pas forcément ce que tu appréciais. Est-ce que tu pourrais dire, mais succinctement, sans rentrer dans des détails hyper techniques, pourquoi, qu'est-ce qui caractérise justement cette période par rapport à ce qui pourrait se faire maintenant?
Oui,
pour la domra. Hein.
Oui, tout ce qui concerne moi, j'ai fait mes études à Moscou et on était obligé, en manque de matériel, on a joué le répertoire classique.
Oui.
Et Paganini, et oui. Mozart. Et ça s'est basé toujours sur le répertoire classique, de la musique classique.
Oui.
C'était pas l'improvisation, c'était pas. On a étudié aussi la musique folklorique, on faisait des expéditions au fond du village, village pour écouter les mamies qui chantaient.
D'accord.
Et noter, en fait, les mélodies, vraiment, c'était. Voilà. Mais improvisation, c'est niet. C'est niet. Et ça, c'est mon handicap aussi dans la vie, parce que quand on sort de l'école russe classique, on a du mal à improviser, on reste dans le cadre, vraiment.
Oui, mais je pense que ça concerne beaucoup de musiciens classiques,
et
que ce soit en Russie ou ailleurs.
Ici, je pense qu'ils ont le même problème, entre guillemets.
Oui.
Moi, je vois que certains musiciens qui ont une solide formation classique et qui essayent de faire un petit peu de musique dite traditionnelle, choses comme ça, c'est extrêmement difficile pour eux, parce que déjà... Même avec une partition, retranscrire un morceau qui a toujours été véhiculé oralement, c'est pas évident. Hein. Donc, en Russie, c'était un peu la même chose. Alors là, pour le coup, est-ce que c'est par pure idéologie, on va dire, c'est-à-dire que voilà, on est dans un cadre, il faut y rester, comme un peu ici, hein, malheureusement, ou alors c'est parce que voilà, ils estimaient que ça n'avait pas de valeur artistique en tant que tel.
Non, mais c'est pour moi, ça c'est mon avis personnel.
Hein. Oui.
Pour moi, c'était toute l'anarchie, toutes les sortes d'anarchie, c'était interdit.
Oui.
Une note jouée qui n'est pas écrite, c'était interdit.
Ah d'accord.
Voilà, c'est même dans que les gens ne prennent pas cette notion d'improviser.
De liberté.
Liberté, on commence dans la musique, après on passe à d'autres domaines.
Alors, ce qu'on va entendre là ne reflète pas justement. Cette
oui, ça c'est l'école soviétique.
D'accord. Qu'est-ce qu'on va entendre exactement?
On va entendre Mars Djendja, écrit par Alexandre Tsigankov, qui était mon maître.
D'accord. Et là, la domra se caractériserait comment? Est-ce que justement, tu as une
liberté?
C'est
un morceau de tsigane.
Ah oui, d'accord.
C'est un morceau de tsigane. Oui. Oui, c'est pas un grand classique.
Alors justement, puisque tu évoques les tsiganes, est-ce que par exemple, pour moi, les tsiganes russes, c'est toujours avec la guitare? Et pas la balalaïka, justement. Est-ce qu'ils en jouent aussi? Oui.
Les balalaïkas, non, hormis Petro Ivanovitch, qui n'est pas russe, d'ailleurs, qui est d'un tzigane, mais qui n'est pas russe.
Oui.
Non, les tziganes ne jouent pas vraiment de balalaïka. Ils jouent plutôt de la guitare, effectivement.
Ouais.
Oui, mais ils jouaient.
Ah, peut-être, d'accord.
Ils l'utilisaient.
Ils l'utilisaient, d'accord. Bon. Alors, quel est le thème de la chanson?
Marjinja, c'est une femme qui a des bottes rouges.
Ah.
Et qui danse.
Et je voulais dire aussi ajouter que c'était accompagné par le groupe Natacha et Nuit de Prince.
Bien sûr. Paru chez. C'est une autoproduction peut-être?
C'est une autoproduction, mais c'est distribué par Inouï.
D'accord.
Inouï Distribution.
Et ça date de.
2015, il me
2015,
semble.
Déjà. Quand le temps passe. Oui. Alors on écoute Natacha et Nuit de Prince. Thank you. un peu de musique russe. On peut dire que c'est de la musique de cabaret, ça, ou pas?
Spécialement. C'est de la musique tzigane, mais qui a été quand même arrangée justement par Tsiganov. Et puis nous, on l'a arrangé aussi à notre sauce un petit peu aussi.
Alors, là, on va écouter Vladimir Yakovlev pour représenter ce que je voulais passer tout à l'heure, c'est-à-dire la domra soviétique, entre
classique.
Guillemets. Classique, voilà. Accompagné à la guitare à 7 cordes, dont le guitariste Boris Okuniev dit que c'est un instrument typiquement russe, alors que ça existe aussi au Brésil. Est-ce que quelqu'un peut parler un peu de la guitare à 7 cordes russe?
C'est pas la même, hein. Elle n'est pas accordée de la même façon. D'accord. En Brésil et en Russie.
D'accord.
Voilà, donc voilà la différence okay. Dont je peux parler.
D'accord, très bien. Alors, est-ce que rien à dire sur Yakovlev? Je suppose que c'était une icône aussi de la domra à une certaine époque.
Bien sûr, c'est un homme qui était gravé dans l'histoire de d'évolution
oui.
de domra.
D'accord.
Il faut écouter.
Il faut écouter.
J'ai hâte.
C'est ce qu'on va faire. Cet extrait d'un disque, alors que je ne me trompe pas, qui n'a pas de nom d'ailleurs, c'est simplement Yakovlev et Okuniev. C'est une, toujours édité par le label soviétique, ex-soviétique Melodia. C'est un label qui existe toujours, Melodia. Je n'ai pas l'impression. Hein. Ah, non, excusez-moi, bon, ce n'est pas grave.
Je ne sais pas.
Ce n'est pas grave du tout.
Depuis 20 ans.
Et alors, on va, on va écouter un morceau très connu qui est repris par tous les grands artistes de ces instruments. C'est une polonaise, donc une danse de type polonaise, comme a pu en composer Chopin. Celle-ci a été composée par un certain Oginski, donc fin 19e, je suppose.
Oui, quelque oui, chose oui, comme fin ça. 19e. Voilà.
Donc on écoute ce magnifique duo de domra et de guitare à 7 cordes. Thank you. un peu de domra classique, on va dire, issu de l'école russe de conservatoire par Vladimir Yakovlev et Boris Okuniev. Alors, après des décennies, voire des siècles d'utilisation, qu'elle soit populaire ou plus classique, quelqu'un est arrivé avec sa balalaïka électrique ou électrifiée, que j'ai découvert, moi, je ne sais plus quand, mais il n'y a pas très longtemps, c'était lors d'une émission à la télé, la célèbre émission, pour ceux qui s'intéressent à ça, de Jean-François Zigel, La boîte à musique. Et là, j'en suis resté comme deux ronds de flanc, comme disait ma grand-mère. Parlez-nous de Alexei Archipovski.
Archipovski, c'est Natalia qui va en parler parce qu'elle le connaît depuis. Ils ont fait leurs études ensemble oui. Et ils se connaissent, ouais. Ils sont amis.
On va l'écouter, bien sûr, bien que ce gars-là n'ait jamais enregistré de disque. Il
si.
Y a plein. Ah
bah okay. Si, il y a bah un oui, seul. C'est un DVD. Vidéo ah, qui parle de lui, c'est sorti en 2013. Elle me
eh ben oui, bah c'est quelque chose que j'ai jamais réussi à. J'ai pas trouvé ça sur Internet.
Je l'ai à la
il y a beaucoup de vidéos par contre, mais on en reparlera tout à l'heure. Alors, présente-nous Alexei, s'il te plaît.
Bah, Alexei, voilà, c'est. Il est né en Touapsé, mm-hmm. Au bord de la mer.
Laquelle?
Noire.
La mer Noire, d'accord, oui.
Ouais. Et bon, il est venu faire ses études à Moscou, où on a fait Agnesina, à l'Académie de musique. Ben, c'est la personne qui était un peu extraordinaire par rapport à... Déjà, il est venu avec un répertoire, pas après le conservatoire.
Ouais.
Déjà, il a joué tout et n'importe quoi. Mais je ne vais pas vous parler de les relations personnel, mais plutôt musical.
Oui.
Deuxième année de ses études, il y avait un concours qui réunissait tous les établissements de musique de Moscou mm-hmm. et comme Île-de-France, en fait.
Oui.
Tous les formations étaient acceptées. Orchestre symphonique,
oui.
Populaire, duo, trio, solo, tous les instruments.
D'accord.
Hein, les étudiants qui faisaient leurs études de la musique.
Mm-hmm.
Vous pouvez imaginer un quatuor classique qui joue répertoire classique et après Alexei qui sort tout seul.
Oui.
Il était toujours individualiste, si vous voulez. Il est sorti avec sa balalaïka et il a joué Paganini, 24 caprices. Et là, après sa prestation, il avait... Mais,
un silence.
Silence. Ouais, personne n'a bougé.
Ah.
On était muets, on était...
Oui.
Scotchés.
Et en fait, après, je lui ai posé la question, mais qu'est-ce que tu voulais dire, en fait? Quand tu as joué, tu as pensé à quoi? Et il m'a dit, mais chaque variation, c'était en fait l'épisode de la vie d'un artiste. C'est toujours, il raconte une histoire
oui.
Quand il joue.
Oui, c'est vrai.
C'est pas bien exécuté, c'est pas bien... Et, non, et il porte l'information en plus.
Mm-hmm.
Voilà. Et lui, il a ce que je remercie de casser le cadre, cette vision et utilisation de balalaïka.
Oui.
Classique pour jouer Tchastouchki, qu'on oui. vient d'écouter,
oui.
ou... répertoire classique, mmh. répertoire de violon, il joue tout ce qu'il compose lui, tout ce qu'il
oui.
ressent, tout ce qui est dans sa tête,
oui.
et en plus l'accent, ça c'est le son et ce qu'on peut donner comme information avec le
oui.
son,
oui, oui.
C'est ce qu'il fait comme effet dans nos âmes, dans nos têtes, et les salles entières, et il pleure quand mmh. il joue, et les gens ils comprennent pas ce qui lui arrive,
oui.
c'est, je vais pas dire psychodélique, mais
oui, oui.
pas loin.
Ouais.
En tout cas.
Et il se produit donc toujours seul.
Toujours seul. Pendant 20 ans quand même, il a joué avec les orchestres.
Oui.
Il a accompagné notre chanteuse.
Zikina,
ouais. Avec l'orchestre.
Grande chanteuse russe.
D'accord.
L'équivalent de Piaf.
Ah oui, ok. Mais malgré tout, parce que toutes les vidéos que je vois sur Internet, il est seul sur scène.
Il n'est pas seul sur scène.
Ah, bah, toutes celles que j'ai vues.
Lui et Balalaïka.
Des fois, il y a.
Non.
Ah oui.
Lui et Balalaïka, parce oui. que c'est le travail à deux.
D'accord.
Ouais. Et il considère l'instrument, c'est collaboration. Avec
oui.
l'instrument
d'accord.
même.
Ouais.
Lui, tout ce qu'il veut dire, ce n'est pas forcément ce qu'il peut suivre l'instrument, qui reste toujours à l'instrument primitif au
ouais.
niveau de pas composition,
de c'est la facture.
De la facture, oui, si oui, vous oui. voulez, la guitare, elle était évolution de la guitare oui. Depuis 100 ans. Il y a des luthiers qui réfléchissaient, qui faisaient améliorer l'aspect de vibration d'instrument. Et balalaïka, il reste intact.
C'est ça.
Depuis.
Alors, l'instrument est bien électrifié.
Sonorisé.
Il utilise, j'ai vu ça, il utilise ce qu'on appelle le delay en anglais, donc un petit peu retard de son pour produire des effets d'écho, etc., etc. Moi, ce qui m'a fasciné, alors je pense qu'on va, on va écouter un extrait, évidemment, c'est une captation, comme on dit, d'un concert que j'ai trouvé sur Internet. Et je crois que, je ne sais plus si c'est enregistré chez Gisèle ou pas. Bref. En tout cas, c'est un morceau. Je pense que même sans le voir, parce que je crois que visuellement aussi, c'est impressionnant, sans le voir, il a apporté aussi d'autres techniques de jeu.
Oui.
Je le vois avec faire jouer en harmonique avec le.
Vous savez qu'Edroff le fait aussi, hein.
Oui.
Oui.
Mais c'est marrant parce que ça s'entend pas forcément dans les reprises de morceaux ordinaires entre guillemets.
Il joue plus balalaïka.
Non.
Il joue sa musique avec cet instrument.
C'est ça.
En fait,
oui.
Il a dépassé un peu balalaïka dans le sens classique.
Oui.
Mais il est fidèle à cet instrument et il fait sa musique.
Oui.
Avec balalaïka.
Alors, on va écouter un morceau qui s'appelle Amok. Donc, je ne sais pas d'où ça vient, ni ce que ça peut vouloir dire, etc., etc. J'ai choisi celui-là parce qu'il est relativement court. Parce que Archipovski, quand il commence à jouer, ça peut durer un quart d'heure. Donc, voilà.
C'est l'histoire.
Mais oui, justement, c'est ça qui est passionnant.
Il raconte une blague courte.
On passe par toute une série d'émotions, etc., etc. Ce qu'il adore aussi, j'ai remarqué, c'est faire des citations musicales. Par exemple, il va reprendre quelques petits morceaux typiquement russes pendant 4 mesures. Après, il va passer à une adaptation de Mission Impossible. Il se refuse de rien.
Panthère rose.
Oui, c'est ce qui fait vraiment un artiste à part et complet. Donc, Ariel, on va écouter La Plage 3, ce morceau qui s'appelle Amok. Alors, pardonnez-moi pour la qualité du son, c'est un enregistrement de vidéo, de son de vidéo. C'est parti. Thank you. enregistrement public de Alexei Archipovski. Le morceau s'appelle Amok. Alors, ce musicien donc est venu en France en fait une fois. En tout cas, j'ai vu dans une espèce de pas de discographie mais de biographie qu'il est venu au festival de mandoline justement de Lunel dans le sud de la France en 2010 si je me rappelle bien.
Il est venu plusieurs fois. Il était invité pour la fête de la musique. Il a joué devant la mairie de Troisième.
Donc c'est un petit peu un habitué de la France alors.
Oui.
D'accord. Très bien. Donc j'espère que vous avez apprécié ce musicien tout à fait hors norme en quelque sorte. Et je vous invite donc à taper évidemment, il faut savoir comment ça s'écrit, c'est A-R-K-H-I-P-O-V-S-K-Y ou I, ça dépend des... puisque ça s'écrit pas comme ça en russe évidemment. Donc la translittération en français, ça donne à peu près ça. Et vous trouverez tout un tas de vidéos de lui en concert. On va se quitter donc avec Natacha et Natalia avec un extrait d'un autre disque auquel vous avez participé. Un orchestre donc exclusivement constitué de balalaïka.
Oui, c'est l'orchestre Saint-Georges qui est dirigé par Petia Jakaj-Pritkov et qui a monté cet orchestre de balalaïka où il n'y a que des balalaïkas, rien que des balalaïkas. Ouais. Ce qui n'existe pas en Russie. En Russie, il y a toujours des domras, il y a des baïanes, il y a accordéons.
La discrimination de domristes ici en France.
Voilà. Bah, pas tout à fait, puisqu'il y en a chez Natacha et Nuit de Prince.
Oui, merci, voilà. merci. Voilà.
Et donc, c'est un donc, je crois qu'on va écouter le morceau qui s'appelle Zima, et qui veut dire hiver en russe.
C'est super. C'est parti.
Comme il fait froid aujourd'hui.
Voilà quelques notes de balalaïka d'orchestre de balalaïka pour terminer Folkallier d'aujourd'hui, dimanche 7 juin. Avant de se quitter, mesdames, est-ce que vous avez des projets dont vous voudriez nous faire part ?
Oui, bon, de toute façon, on espère reprendre, vu la situation.
C'est vrai qu'on est dans un cas de figure très, très compliqué.
Voilà, en septembre, on a des dates à partir de septembre. Donc, vous pouvez regarder tout ça sur nuitdeprince.com, au pluriel.
Nuitdeprince.com.
Tout est au pluriel.
Tout est au pluriel, d'accord.
Et voilà, donc à partir de septembre, on a des dates.
Ok, séparément, vous avez des projets
séparément. Bien, on joue aussi dans l'orchestre, toutes voilà. les deux, dans l'orchestre Saint-Georges, ensemble. Donc, c'est, on est encore ensemble.
Très bien. Voilà. Très bien. Mais merci en tout cas. Spasibo Balshoy, comme on dit.
Vam spasibo.
Pakat.
Pakat. Pakat. Pakat. До скорого.
Très bien. Bon, eh bien, on va se quitter donc avec. Il n'y a pas d'émission qui nous suit, donc ça sera une petite bande sans fin, c'est ça ?
Oui, oui. Ben, on va passer quand même dans notre deuxième générique.
Ah, bah si tu veux, moi ça ne me gêne pas, vu qu'il n'y a personne derrière. Alors, vous retrouverez la semaine prochaine Serge, qui nous fera, d'après ce que j'ai compris, un spécial Pays Basque. Plus une deuxième heure consacrée sans doute à des nouveautés. Et puis, dans deux semaines, Franz Mine vous parlera d'Idir. Donc, pour. Célébrer la mémoire de ce prodigieux musicien kabyle. Moi, je vous retrouve le dimanche 5 juillet. Je ne sais pas encore de quoi sera fait le programme, mais bon, soyez à l'écoute et merci de nous avoir écoutés. Ciao.